VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 25 octobre 2023. Situation humanitaire critique à Gaza, pilonnée sans relâche par Israël, en riposte à l'attaque sanglante du Hamas. Ici aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants votent aujourd'hui sur la candidature au perchoir de Mike Johnson, dernière tentative en date pour sortir de l'impasse au Congrès. Au Gabon, Sylvia Bongo-Ondimba reste en prison après le rejet de la demande de mise en liberté provisoire de l'ex-premier dame.
Des bandits, c'est pas seulement ceux qui braquent, mais il y a aussi des bandits financiers. Si quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est tout à fait logique que le public doit savoir ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est légitime.
Reportage à suivre sur la réaction des Gabonais dans la partie magazine. Guerre au Soudan, reprise demain jeudi à Jeddah, des négociations sous médiation américano-saoudienne en Sierra Leone. Le président Julius Badavio s'engage à faire appliquer un accord avec l'opposition pour faire baisser les tensions. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le secrétaire général de l'ONU, vivement critiqué par Israël hier, s'est dit choqué aujourd'hui de la représentation biaisée de ses propos sur le Hamas, alors que la situation humanitaire est jugée critique dans la bande de Gaza, assiégée et pilonnée sans répit par l'armée israélienne. Le point avec vous, Jacques Aristide.
Oui, Jean-Roger, de nombreux pays réclament une pause humanitaire dans les bombardements incessants menés par Israël à Gaza, où les hôpitaux sont submergés, dont certains ont déjà fermé, faute d'électricité. L'ONU réclame d'urgence la livraison de carburant pour faire fonctionner les générateurs dans ces hôpitaux où affluent des milliers de blessés, également pour pomper et purifier l'eau et faire circuler les camions. Mais Israël s'y refuse, affirmant que cela profiterait au Hamas qu'il considère, avec les États-Unis et l'Union européenne, comme une organisation terroriste. Le président français Emmanuel Macron, arrivé en Égypte aujourd'hui après une visite de solidarité en Israël et une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée, a annoncé l'envoi par la France de navires militaires pour soutenir les hôpitaux. Ce dernier, un navire hôpital, a appareillé ce mercredi pour Gaza. Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien, a lui appelé Israël à éviter une invasion terrestre de Gaza, affirmant qu'elle ferait un grand nombre de victimes civiles. À New York, le chef de l'ONU s'est dit choqué de la représentation biaisée de sa déclaration d'hier au Conseil de sécurité, comme si, dit-il, j'avais justifié les actes terroristes du Hamas. C'est faux, c'est le contraire, a déclaré Antonio Guterres. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan, a lui rejeté les explications d'Antonio Guterres, demandant à nouveau sa démission.
Merci Jacques. Plus de 114 millions de personnes sont actuellement déplacées de force dans le monde. Un nombre record, ont indiqué les Nations Unies ce mercredi. Au premier semestre 2023, les déplacements de population ont été principalement causés par les conflits en Ukraine, au Soudan, en Birmanie et en République démocratique du Congo, mais aussi par la crise humanitaire persistante en Afghanistan et par un mélange de sécheresse, d'inondations et d'insécurité en Somalie. Cette estimation ne prend donc pas en compte les 1,4 millions de Palestiniens déplacés, selon l'ONU, à l'intérieur de la bande de Gaza depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Ici aux États-Unis, après des semaines de chaos et de querelles fratricides, les Républicains ont bon espoir de faire élire ce mercredi leur nouveau candidat à la présidence de la Chambre américaine des représentants en la personne de Mike Johnson, un allié de Donald Trump. Le vote en séance plénière à la Chambre basse est en cours en ce moment. Eric Manirakiza.
L'élection de cet élu de Louisiane au poste de speaker mettra fin à une impasse de 3 semaines qui a paralysé le Congrès. Monsieur Johnson serait le speaker le moins expérimenté en plus d'un siècle, n'ayant jamais présidé de commission. Cette majorité républicaine à la Chambre est unie à assurer à la presse Monsieur Johnson sous les applaudissements de ses collègues après sa nomination. Rien n'est toutefois joué et il ne peut se permettre de perdre que 4 voix parmi les républicains. Mike Johnson, qui a appuyé les tentatives juridiques de renverser le résultat de l'élection de 2020, est le 4e républicain à être choisi par son parti en 21 jours pour remplacer Kevin McCarthy. Les élus veulent croire qu'il réussira là où les autres ont échoué et il devrait tout de suite, s'il est élu, gérer les discussions pour éviter un shutdown de l'administration fédérale. Il devrait également naviguer entre les positions de ses collègues républicains qui affichent au grand jour depuis des semaines de profonds désaccords, notamment au sujet des fonds demandés par le président Biden pour l'Ukraine et Israël.
Eric Manirakiza, le président américain Joe Biden a reçu en grande pompe aujourd'hui à Washington le premier ministre australien Anthony Albanese, saluant la solidité de leur alliance face aux multiples crises dans le monde et en Asie-Pacifique. Anthony Albanese a été accueilli à la Maison-Blanche avec tous les honneurs d'une visite d'État sous le regard de 4000 invités. Il aura droit à un dîner de gala sur la pelouse de la résidence présidentielle après une journée d'échanges diplomatiques avec Joe Biden et une conférence de presse conjointe dans la célèbre Roseraie, jouxtant l'édifice.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine au Soudan, les négociations entre l'armée et les paramilitaires en guerre depuis plus de 6 mois vont reprendre sous médiation américano-saoudienne à Jeddah en Arabie Saoudite. Claire Morin-Jibou.
L'annonce a été faite par l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. À l'invitation de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, appelant à reprendre les négociations avec les rebelles de la milice FSR. Et parce que nous croyons dans les négociations, nous avons accepté l'invitation à Jeddah, indique le communiqué publié par l'armée. Le texte précise toutefois que la reprise des négociations ne signifie pas un arrêt de la bataille. Les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR du général Mohamed Abdan Daglo, n'ont pas jusqu'ici annoncé leur position au sujet de ces négociations. Depuis le 15 avril, le conflit a fait plus de 9000 morts, selon un bilan très sous-estimé de l'ONU, et 5,6 millions de personnes sont déplacées ou réfugiées. Différentes tentatives de médiation, principalement celles à Jeddah, n'ont cessé d'échouer sans jamais décrocher plus que de brèves trêves. La guerre au Soudan a pris une tournure ethnique au Darfour dans l'Ouest où l'ONU enquête sur un possible génocide. Ce conflit est l'un des pires cauchemars humanitaires de l'histoire récente, selon les Nations Unies.
Un soldat kényan de la force régionale est-africaine déployé dans l'est de la République démocratique du Congo a été tué mardi lors de combats entre groupes armés pro-gouvernementaux et rebelles du M23. L'armée congolaise a accusé le M23 d'être l'auteur du tir mortel. La force est-africaine déployée dans la région depuis novembre 2022 comprend des soldats kényans, ougandais, burundais et sud-soudanais. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio s'engage à faire appliquer entièrement un accord conclu récemment avec l'opposition pour surmonter les tensions exacerbées par sa réélection. L'accord conclu sous égide internationale prévoit, entre autres, de réexaminer le système électoral. Davantage avec Alexandrine Ollongnon.
Le gouvernement et le principal parti d'opposition, APC, se sont entendus pour mettre en place un comité interparti chargé de réexaminer les élections de juin avec les partenaires impliqués dans la médiation. L'APC avait jugé ces élections truquées et a décidé de boycotter le Parlement et les conseils locaux. Julius Maada Bio, dans une allocution, a affirmé la nécessité de réexaminer le système électoral et appelé à l'unité et la réconciliation. L'APC, de son côté, accepte de mettre fin à son boycott en échange de la fin des détentions et des affaires judiciaires motivées, selon lui, par des considérations politiques. Julius Maada Bio, élu une première fois en 2018, a été réélu en juin dès le premier tour avec 56,17% des voix selon les résultats publiés par la commission électorale. Les observateurs étrangers ont cependant dénoncé des incohérences et un manque de transparence dans le décompte ainsi que des actes de violence et d'intimidation.
Au Sénégal, des nouvelles de l'opposant Ousmane Sonko qui dénonce sa détention depuis fin juillet. Il avait repris sa grève de la faim il y a 8 jours. Son avocat a fait savoir aujourd'hui qu'il est dans un état très faible dans un service de réanimation d'un hôpital de Dakar. Il est tombé dans le coma le 23 octobre. Il a repris connaissance le même jour, mais il est dans un état très faible et il poursuit ses soins, a déclaré Maître Siré Ekledorli, qui dit avoir pu discuter avec son client hier après une condamnation pour diffamation contre un ministre. Ousmane Sonko a été déclaré coupable le 1er juin de corruption de la jeunesse et condamné à 2 ans de prison ferme. Absent au procès, l'opposant a été condamné par contumace puis radié des listes électorales. Une condamnation qu'un juge de Zingeshwar a annulée la semaine dernière. M. Sonko accuse le président Macky Sall, qui s'en défend, de vouloir l'écarter du scrutin par des procédures judiciaires. Et puis, sachez que les quelques 500 mineurs sud-africains restés sous terre depuis lundi à la suite d'un conflit entre syndicats sont tous remontés à la surface ce mercredi. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jacques Aristide.
La monnaie kényane, le shilling, qui s'échange à un taux historiquement bas et surévalué depuis plusieurs années, a déclaré Kamau Thugge, le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, devant une commission parlementaire. La monnaie a connu lundi un nouveau plus bas historique à 150 shillings pour un dollar, en recul de 24% sur un an. En octobre 2018, un dollar valait 100 shillings. Nous avons essayé de maintenir artificiellement un taux de change assez fort, a ajouté le gouverneur Thugge, qui a pris ses fonctions en juin, mais au prix d'une perte de réserve internationale de devises. La guerre qui fait rage depuis bientôt 3 semaines entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza affecte déjà les économies des pays voisins. C'est ce qu'a affirmé mercredi la chef du FMI, Fonds monétaire international. Regardez les pays voisins, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, où les impacts sont déjà visibles, a déclaré Kristalina Georgieva devant un forum d'investisseurs à Riyad. La déclaration de Madame Georgieva intervient au lendemain d'un avertissement lancé par de hauts responsables financiers sur un possible coup dur provoqué par cette guerre sur l'économie mondiale dans son ensemble. Ce que nous voyons, c'est davantage de nervosité dans un monde déjà anxieux, encore dit la chef du FMI.
Place maintenant au sport avec Eric Mandirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Ligue des champions, Maguire et Onana sauvent Manchester United.
Manchester United a remporté ses premiers points en Ligue des champions hier mardi contre Copenhague, 1-0, grâce à Harry Maguire, buteur improbable, et André Onana, auteur d'un arrêt sur pénalty dans le temps additionnel. De quoi entretenir les espoirs de qualification.
Arsenal s'en sort à Séville et détrône Lens.
Tout à fait, Arsenal est allé s'imposer sur la pelouse du Séville FC hier mardi, 2-1, pour doubler Lens, tenu en échec par le PSV Eindhoven, 1-0 en tête du groupe B.
Le PSG face au couperet de la double confrontation contre l'AC Milan.
Le PSG joue déjà son avenir européen dans la double confrontation contre le prestigieux AS Milan, qui commence ce mercredi au Parc des Princes dans un groupe où désormais chaque faux pas s'annonce fatal. L'entraîneur parisien Luis Enrique a estimé que les deux matchs à venir contre les Rossoneri sont donc un tournant, on dirait presque un match à élimination directe, a-t-il déclaré.
Mondial féminin, officialisation de la candidature commune Belgique, Allemagne et Pays-Bas pour 2027.
Cette candidature a été officialisée, ont indiqué ce mercredi les fédérations dans un communiqué commun. Elle sera en concurrence avec celle des États-Unis et du Mexique, ainsi qu'avec celle de l'Afrique du Sud et celle du Brésil. L'organisation de la Coupe du Monde 2027 devrait être décidée lors du congrès de la FIFA en mai prochain à Bangkok.
NBA Denver domine les Lakers de LeBron James en ouverture de la saison.
Les Denver Nuggets du Serbe Nikola Jokic, sacré champion en juin, ont inauguré la saison NBA 2023-2024 par une victoire 119-107 contre les Los Angeles Lakers de LeBron James hier mardi à domicile. Les Nuggets avaient balayé les Lakers en finale de la conférence Ouest au printemps, avant de dominer Miami pour le titre. Le second match de la soirée a vu les Phoenix Suns de Kevin Durant, 18 points, 10 rebonds, s'imposer sur le parquet de son ancienne équipe, les Golden State Warriors, 108-104 de Stephen Curry.
San Antonio chante le soleil, Wemby sous la pluie.
La métaphore s'impose avec les Spurs de San Antonio, équipe privée de play-off depuis 2019, qui célèbre déjà le rookie Victor Wembanyama comme son nouvel astre. À 19 ans, le numéro 1 de la dernière draft, au talent annoncé comme inédit, attaque sa carrière en NBA ce mercredi à domicile contre Dallas.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Gabon, la demande de mise en liberté provisoire de Sylvia Bongo-Valentin a été rejetée par la justice gabonaise. L'épouse du président déchu est retournée en prison au terme des 10 premiers jours de sa détention. Madame Bongo est inculpée par un juge d'instruction pour des faits de malversation financière, de recel de biens et blanchiment de capitaux, entre autres. Elle attend désormais son jugement derrière les barreaux. Les réactions à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
En isolement, Sylvia Bongo-Valentin reste derrière les barreaux. L'ex-première dame du Gabon est privée de liberté jusqu'à son jugement définitif. La nouvelle de son incarcération est perçue par une grande partie de l'opinion comme marquant la fin de l'impunité. Georges Ibinga, étudiant.
C'est normal qu'elle reste en prison et c'est, je crois, une justice rendue pour le peuple gabonais qui vivait vraiment dans un état déplorable. Et jusqu'à présent, les choses sont en train de se relever petit à petit. Mais c'est à cause de ce genre de comportement-là que nous traversons cette situation au Gabon.
Pour Michael, jeune artiste, avec les militaires au pouvoir, plus de citoyens au-dessus de la loi.
Aucun Gabonais n'aurait pu s'imaginer que Sylvia Bongo, au sommet de son art, se retrouverait à sans famille, là où elle a envoyé briser la cruche à Lianga, qu'elle n'a même pas reconnue. Hein. Elle n'a même pas reconnu la cruche à Lianga qu'elle a envoyée en prison elle-même.
Le cas Sylvia Bongo-Valentin rallonge la longue liste des présumés fossoyeurs du pays, désormais poursuivis pour leurs actes. Elisabeth Maganga, diplômée en attente d'intégration à la fonction publique.
Dès lors, moi je me dis, c'est bien, pour tous ceux qui observent la justice au Gabon, et tous ceux qui regardent comment, en tout cas, on traite ceux qui agissent mal, au moins ça va limiter certains vols ou bien certains dégâts dans ce sens.
Alain Don, cadre de l'entreprise, n'en pense pas moins.
Des bandits, c'est pas seulement ceux qui braquent, il y a aussi des bandits financiers. Bon, si quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est tout à fait logique que le public doit savoir ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est légitime de montrer dans les médias.
Des avis qui tranchent avec celui de Johanna Matsanga, actrice de cinéma.
C'est triste de voir quelqu'un qui est du haut ou tomber une chute libre comme ça, sachant qu'elle n'est pas totalement gabonaise. Elle est venue en mariage et elle se retrouve en prison dans le pays où elle est venue en mariage.
Si au sein de la classe politique, très peu de voix se font entendre sur les poursuites judiciaires engagées contre les Bongo et leur entourage, Bruno Ben Moubamba, opposant en exil, a dénoncé à travers une vidéo une manipulation de la justice par le pouvoir militaire. Selon lui, elle poursuit certains présumés responsables de crimes financiers et de sang, laissant de côté une trop grande majorité d'entre eux. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le gouvernement de la RDC a lancé un programme d'accouchement gratuit pour éviter non seulement la mort des mères et des bébés, mais aussi celle des femmes détenues dans les hôpitaux faute d'argent pour payer leurs factures après avoir donné naissance. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Biobe Malenga.
Selon le ministre de la Santé, il y a un nombre élevé de décès, affirmant que sur 100 000 femmes qui accouchent, 480 mères et un nouveau-né sur 35 mères. Docteur Roger Kamba mentionne les principales causes des décès maternels et infantiles.
La première cause, c'est l'hémorragie pendant l'accouchement. La deuxième cause, c'est l'hypertension artérielle. La troisième cause, sont les infections. Et chez les tout-petits, on y ajoute la prématurité. Et donc, toutes ces choses sont des choses sur lesquelles on peut agir. On peut agir en suivant correctement la grossesse. On peut agir en donnant les soins d'accouchement appropriés. Et on peut agir en soignant correctement le nouveau-né.
À la maternité de Kintambo, le médecin directeur indique qu'une centaine de bébés sont nés ici gratuitement. Une opportunité qui montre le bonheur sur les visages des femmes qui ont accouché ici il y a quelques jours, comme Madame Mandali Tukabelinda.
Je suis venue accoucher ici. C'est depuis jeudi que je suis là. J'ai bien accouché. Personne ne m'a dérangé ou ne m'a demandé l'argent pour les médicaments ou quoi que ce soit. Non. C'est pourquoi je dis merci à Dieu et au président de la République pour ce qu'il a fait pour nous. Avec le taux qui ne fait que changer, je ne sais pas comment j'allais faire. J'allais payer entre 300 à 500 000 francs, environ 125 et 200 dollars, mais je n'ai pas payé.
Dans la salle de consultation prénatale de cette maternité, nous croisons Mme Zunzi, bienvenue. Enceinte, elle attend son accouchement. Pour elle, la prise en charge de l'accouchement est un soulagement.
Donc l'enfant sera admis en néonatologie gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue, parce que je ne m'y attendais pas. Parce que là, je suis à l'aise, je sais que je pose problème ou pas, que l'enfant pose problème ou pas, on sera tous pris en charge. Et pour ça, vraiment, j'ai dit, je donne un coup de chapeau au gouvernement et au président de la République.
Ici, les défis de l'espace affectent cette maternité. Docteur Brigitte Toupela est le médecin directeur.
La maternité, à son temps, elle devait avoir des 100 lits budgétaires. Mais actuellement, nous fonctionnons avec 110 lits montés, ce qui fait qu'il y a un déficit qui est dû à l'espace. Nous manquons de l'espace pour abriter les bureaux et les lits des salles d'hospitalisation. Alors, nous avons un grand terrain, une grande cour. Nous avons plusieurs fois fait un plaidoyer pour que l'autorité puisse nous aider à avoir des bâtiments annexes.
Les frais de l'accouchement varient entre 40 et 500 dollars américains. À cause de cette situation, de nombreuses femmes décident d'accoucher à domicile et d'autres dans des salles de prière, provoquant dans beaucoup de cas la mort de la mère et de l'enfant. Biob Malinga pour VOA Afrique, Kinshasa.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
En Mauritanie, un projet de loi visant à lutter contre les violences envers les femmes et les filles est au cœur d'une bataille politique. Les parlementaires, la société civile et le gouvernement s'efforcent de le faire adopter, tandis que des leaders religieux s'y opposent vigoureusement, malgré les révisions apportées pour le rendre plus conforme à l'islam. Un reportage de Mohamed Diop.
Le projet de loi contre les violences envers les femmes et les filles a été présenté 3 fois au Parlement mauritanien. Mais il a été retiré avant chaque débat en raison des préoccupations de certains religieux concernant sa conformité à la charia dans une république islamique.
Parce qu'on parlait de violences basées sur le genre. Et ce concept de genre amène certains à faire inclure des notions qui n'avaient rien à voir avec le projet de loi, en disant que quand on fait référence au genre, on parle de l'homosexualité, etc. Et ça a été un prétexte pour retirer le projet de loi. Quand il a été réintroduit pour la deuxième fois, on a changé d'intitulé carrément. On a dit les violences faites aux femmes et aux filles. Mais la réaction a été la même, de rejet du principe même de faire débattre de ce projet de loi.
Ils rejettent en bloc le projet sans toutefois avoir l'accès au contenu et sans regarder le projet de loi ni préciser un article dans l'autre. Donc, ils sont contre la loi en tant que telle, en tant que législation qui protège les droits des femmes.
Dans un communiqué, des dizaines de religieux ont qualifié le texte de loi satanique. Le projet de loi vise à réprimer divers actes, tels que le mariage d'enfants, la mutilation génitale et les mariages secrets, appelés syria. Il prévoit des peines d'emprisonnement avec des circonstances aggravantes en cas d'inceste, d'implication du conjoint, de collègues au travail ou de personnes dépositaires d'autorité ou d'ordre public. Ainsi, les attouchements sexuels incestueux sont punissables de 10 à 20 ans de prison, tout comme le viol. En cas de viol incestueux, la peine peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.
Un violeur qui a l'autorité sur la personne n'est pas comme un violeur qui n'a pas l'autorité sur la personne, mais qui la contraint ou qui la kidnappe ou qu'il a rien, mais celui-là, il a une autorité directe sur la personne et en particulier sur les enfants.
Pour taire la polémique, le texte a été plusieurs fois revu. Le terme « genre » aussi supprimé. Et l'État continue de rassurer les religieux.
Les auteurs du projet de loi sont aussi attachés à l'islam et aux musulmans. Ils prennent en considération notre culture, nos valeurs et nos mœurs.
Sauf que les multiples révisions font craindre à l'activiste Aminatou Mokhtar l'aboutissement à une loi vidée de sa coercition.
Alexandrine Rolonio avec vous dans Washington Forum cette semaine. La MINUSMA procède à un désengagement accéléré de ses troupes de la région de Kidal dans le nord du Mali. Après Tessalit, la mission a quitté lundi son camp d'Agelhok. Un retrait anticipé dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé qui a mis, selon elle, en danger la vie de son personnel. Le retrait des quelques 600 soldats et 1500 policiers a exacerbé les rivalités pour le contrôle du nord du pays. Les groupes séparatistes s'opposent à ce que l'administration remette les camps aux autorités maliennes. Quels sont les enjeux autour du retrait de la mission onusienne? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
La Côte d'Ivoire est une destination de choix pour beaucoup de migrants en provenance d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, même si leur intégration ne pose pas problème dans la plupart des cas. Mais pour certains, une fois sur place, leurs attentes peuvent ne pas toujours être comblées. À Abidjan, la correspondance de Ange Bijou Nomenio.
Le 26 septembre dernier, à San Pedro, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, une jeune fille malienne est retrouvée morte au pied d'un immeuble où elle travaillait. Pour de nombreuses sources, elle aurait subi des violences sexuelles avant d'être mise à mort. L'annonce de son décès a plongé la communauté malienne de Côte d'Ivoire dans un état de grande tristesse. Bassekou Diarra, secrétaire général adjoint du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire.
La nouvelle avait beaucoup ébranlé la communauté. Les gens étaient... D'autres avaient compris comment, mais d'autres n'avaient pas compris du tout comment on peut arriver à cette atrocité et violer et puis tuer quelqu'un. C'est très difficile à comprendre. Donc, le message lancé par le président Moulay Haïdara, ça a beaucoup apaisé la communauté.
La famille de la jeune fille a porté plainte contre X et une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Ce drame en cache bien d'autres. L'ONG Kavokiva, qui accueille souvent ces migrants, dresse une situation assez sombre de leurs conditions de travail. Mariam Ouattara est directrice exécutive de l'ONG Kavokiva.
Quand on prend toutes nos victimes, surtout les victimes de traite, les victimes à des fins d'exploitation sexuelle, nous avons plus de victimes nigériennes. D'ailleurs, il y a des filles même qui sont déscolarisées au Nigeria, on leur fait des promesses de pouvoir toucher peut-être 500 000 seulement en étant concierge ou bien en étant travaillant seulement dans une boutique et autres. Et là, quand elles arrivent, elles sont tout de suite déchantées et elles sont exploitées à des fins sexuelles.
L'Organisation internationale du travail, qui suit de très près cette problématique, s'efforce de trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie et de travail des migrants. Dei Kumba Diop, spécialiste régional sur les migrations de main-d'œuvre à l'OIT.
Souvent, ces migrants, quand ils partent, ils font face à des conditions de travail qui sont très difficiles. Des conditions de travail qui sont plus difficiles pour ces migrants dans le pays de destination que c'est les nationaux qui sont là. Et pour l'OIT, il y a un principe qui est très important dans les conventions qu'on a signées sur les questions de migration de la main-d'œuvre. C'est le traitement équitable pour les migrants dans les pays de destination. C'est-à-dire un migrant ne devrait pas être traité différemment qu'un national.
La Côte d'Ivoire continue d'accueillir des migrants en provenance d'un peu partout en Afrique. Entre 10 et 25% de la population est étrangère en Côte d'Ivoire, selon les chiffres de l'ONU. Ils sont originaires du Mali, de la Guinée, du Sénégal, mais surtout du Burkina Faso. Ange Bijou Nomenyan pour VOA Afrique, Abidjan.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.